Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous avez des troubles du sommeil, vous vous sentez oppressé, saturé, sous tension, fatigué en permanence, malade régulièrement et de moins en moins motivé dans vos activités, alors vous êtes peut-être stressé. Le stress est un terme devenu commun de nos jours. Utilisé tout d'abord en mécanique pour désigner la contrainte exercée sur un matériau, le terme de stress a été repris dans les années 30 pour décrire des contraintes exercées cette fois-ci sur le plan biologique. Au cours de cette émission, nous reviendrons avec notre invité sur le glissement de sens du mot stress, de son apparition dans la recherche biologique et de l'explosion de ses recherches dans les années 50 jusqu'à nos jours. Nous parlerons également des différentes phases de stress qui ont été révélées par Hans Selye et affinées depuis par les chercheurs. Et nous terminerons toujours en compagnie de notre invité par les questions que tentent de résoudre aujourd'hui les scientifiques. Michel Lemoyle, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter à nos auditeurs, vous êtes neuropsychiatre, membre de l'Académie des sciences et premier psychiatre à avoir intégré cette académie. Parmi toutes les responsabilités que vous avez exercées, vous avez créé et dirigé l'Institut fédératif de recherche neurosciences cliniques et expérimentales de 1994 à 1998. Et vous avez également créé l'Institut François Magendie de neurosciences, créé par l'INSERM. Également professeur émérite à l'Université Victor Ségalen à Bordeaux 2, vous avez été aussi directeur du laboratoire de psychopathologie expérimentale de l'École pratique des hautes études et je précise membre émérite de l'Institut universitaire de France. Michel Lemoyle, si vous le voulez bien, avant d'aborder les prémices de la recherche sur le stress, commençons par l'actualité. Le stress, et notamment le stress au travail, est-il selon vous l'un des grands maux de notre siècle ?
Oui, c'est une question à laquelle je m'attendais un petit peu, étant donné l'actualité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas écouter une émission de radio, même de télévision, semble-t-il, sans que, d'abord, d'une manière générale, le mot stress soit sans arrêt employé, et que le terme ou le concept, je ne sais pas ce qu'il va falloir en dire, mais se focalise en raison d'événements, il n'est pas question ici de faire le rappel, mais en raison peut-être du travail ou du moins de ce que pensent subir de plus en plus de gens dans le contexte des relations de travail. Alors, je pense que les plus anciens qui nous écoutent imaginent très bien que lorsqu'on partait sur un bateau et qu'on ne savait pas où on allait ou qu'on n'avait pas de moteur, qu'on n'avait que des voiles ou qu'on descendait au fond d'une mine ou qu'on allait explorer ceci ou cela ou qu'on partait simplement à la guerre, cette notion de stress était, je dirais, universelle, patente et vécue quotidiennement par les sujets. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le sentiment, dans le contexte actuel, social et peut-être médiatique, que le stress vient d'apparaître, comme si c'était quelque chose de nouveau. Non, en réalité, le stress existe depuis toujours, n'est-ce pas ? Alors, si le stress est depuis toujours et que ce n'est que maintenant qu'on s'en aperçoit, ce qui me paraîtrait un peu inquiétant ou un peu bizarre, c'est que peut-être aussi qu'il y a une perception différente des individus contemporains vis-à-vis de certaines contraintes, contraintes qu'on subissait peut-être encore plus violemment dans les temps plus anciens, mais que les sujets admettaient ou, je dirais, avaient la capacité, c'est une façon de dire, mais enfin, de s'ajuster à ces événements de vie ou de ne pas les considérer comme quelque chose d'extravagant ou hors nature.
Nous serions plus faibles aujourd'hui ?
Alors, je l'ai souvent dit et écrit, nous ne sommes pas plus faibles aujourd'hui, mais l'homme contemporain est différent de l'homme d'il y a 20 ans, est différent de l'homme d'il y a 50 ans, est différent de l'homme de 1000 ans, par exemple. Il est certain que nos sociétés évoluent et les individus évoluent avec cette société. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement, on fait grand état de l'autonomie du sujet, d'un certain individualisme qui serait apparu. Je dirais que c'est l'évolution normale de tout ce que nous ont appris les Lumières, mais je crois qu'on arrive maintenant à un aboutissement où l'individu, c'est vrai, est dans une certaine solitude. Je dirais qu'il n'a plus les supports qu'il s'était construit au cours des décennies ou des siècles, n'est-ce pas, pour l'aider à circonvenir les événements de vie. Je fais allusion, si vous voulez, aux religions, aux supports des communautés. N'oubliez pas quand même que la France était, dans une certaine mesure, hein, c'est difficile à le dire brutalement, mais à 85% rurale dans les années 45, n'est-ce pas ? Donc, on était dans des communautés, dans des petits groupes, dans des familles, dans des clans. Tout cela faisait que les événements de vie, même très graves, n'est-ce pas, étaient tamponnés, circulait au sein du groupe et il y avait l'aide implicite ou explicite de l'ensemble de la communauté. Actuellement, je crois que ce n'est pas la peine d'insister trop longtemps là-dessus, mais il y a de plus en plus d'individus seuls. D'accord ? Dans ces conditions, les événements de vie sont ressentis plus durement. Et deuxièmement, c'est vrai que les conditions de vie sociale sont de plus en plus difficiles. Vous aurez du mal à expliquer à votre grand-mère ou à votre arrière-grand-mère qu'il faut tant de temps pour aller d'un point à un autre, qu'il faut se lever 3 heures avant d'atteindre son lieu de travail, que ceci, que cela, ce qui était impensable, je dirais, il y a encore quelques décennies. Donc les conditions de vie sont certainement plus difficiles, le management de ces conditions de vie sont plus difficiles, et les sujets sont de plus en plus seuls, vraisemblablement, pour affronter ces événements de vie. Donc il y a une évolution sociale, environnementale, sociale, dans nos sociétés occidentales surtout, et individuel de l'individu face à ces événements.
Et nous reviendrons au milieu social à la fin de cette émission, si vous le voulez bien, Michel Lemoyle. Nous parlerons des enfants et du milieu social dans le cadre du stress. Alors, si vous le voulez bien, poursuivons, revenons aux origines de notre questionnement sur ce qu'on appellera plus tard le stress, hein, puisque le terme stress n'a pas toujours existé. D'où vient le mot stress, Michel Lemoyle ?
Il est assez daté, il date à peu près de 80 ans, 90 ans. Il a été créé par les écrits, mais dans un contexte différent, qui était d'ailleurs un contexte juste, par Cannon dans les années 1927. Et il a été repris ensuite en tant que mot stress par un chercheur assez génial, qui est un Hongrois, qui est venu à Paris, qui est parti après à Montréal, qui s'appelait Hans Selye. Et dès ses premiers écrits, a parlé du stress. Alors là encore, c'est un mot anglais qui nous arrive tel quel, qui est utilisé. Je ne sais pas si les gens savent qu'il est anglais, d'ailleurs, ce terme. Je finis par me le demander, d'ailleurs, parce que malheureusement, Cannon l'avait bien utilisé. C'est-à-dire qu'il voyait dans le stress cette espèce de force que les mécaniciens des milieux déformables utilisent en permanence, donc en termes de la mécanique, de la physique, n'est-ce pas ? Une force qui change, je dirais, le matériau déformable, malléable, sur lequel cette force s'applique. Et puis, le résultat, n'est-ce pas, la déformation, c'est the strain. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que nous appelons, nous, le stress, je suppose. Car si vous regardez bien les écrits qu'il y a un peu partout, les gens commencent à parler du stress, mais on ne vous dit pas si c'est ce qu'on dit maintenant le stresseur, c'est-à-dire en anglais le stress, ou est-ce que ce strain, c'est-à-dire le processus de déformation de la matière déformable, sous-entendu notre biologie, d'accord, ou de notre psychisme. Donc, en toute rigueur, on devrait parler de stresseur, la cause, et de stress, le processus résultant de quelque chose qui nous arrive, qu'on appellera donc ce stresseur.
Alors, j'allais vous poser la question de qu'est-ce que le stress ? Peut-être redire quand même un petit mot de vocabulaire, parce que j'imagine que c'est difficile de justement de donner une définition exacte.
Il n'y a pas de définition. Un de mes bons vieux maîtres, qui est décédé il y a 4 ans, qui s'appelait Seymour Levine, qui était un peu le pape du monde du stress dans le monde entier, avait terminé sa carrière par un article, il y a, je crois, dans les années 2003 ou 2004, en disant « J'ai passé ma vie à essayer de définir le stress et je considère cet exercice comme parfaitement futile ». Il veut dire par là qu'on a du mal à saisir dans une définition, je veux dire dans une définition au sens médical du terme, ou en général, une bonne définition, on a du mal à saisir le processus du stress, d'autant plus que le concept et les connaissances que l'on a sur cette déformation dont je parlais tout à l'heure évoluent et évoluent assez rapidement sur le plan scientifique. Donc on le définirait par quoi ? Par, bien sûr, il faut un événement, mais cet événement survient sur un organisme et tous les organismes diffèrent. Et de cela, il résultera un processus, une conséquence que je considère comme normale, parce que le stress, c'est la vie. On est stressé du matin au soir. Du matin au soir, nous avons des événements de vie auxquels nous nous ajustons en permanence. Mais parfois, l'événement de vie perdure, est trop violent. La personne qui s'y ajustait, je dirais, n'est pas en mesure de le faire pour diverses raisons qu'on pourra voir tout à l'heure. Et il y a là alors, un processus pathologique, ou du moins hors physiologique, qui se met en place. Voilà. Donc il y a le stresseur, l'organisme et les conséquences biologiques.
Et nous allons y venir sur les conséquences biologiques. Avant, parlons un peu des Grecs, puisque les Grecs alors, n'avaient pas le terme de stress à l'époque, mais réfléchissaient déjà sur cette question de bien-être ou d'harmonie.
Non, oui, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de rappeler ça. C'est que depuis que l'homme est homme, il se pose la question de savoir comment il peut vivre, survivre, je dirais, dans des milieux, entre parenthèses, qui ne devaient pas toujours être faciles. Comment il pouvait survivre, donc comment il pouvait établir, ce que vous dites vous-même très bien, c'est cette notion d'équilibre, de balance, d'ajustement, etc., etc. Et les Grecs, toutes écoles confondues, arrivaient à ce concept d'ataraxie, c'est-à-dire d'équilibre nécessaire pour survivre avec, je dirais, un équilibre de bien-être. La notion de bien-être était derrière ce concept. Mais il ne faut pas simplement s'en tenir à l'Occident, si je puis dire. Aux origines même de notre réflexion par les Grecs, il y a aussi l'Orient. Et l'Orient, Confucius, Bouddha, etc. Vous voyez tous ces écrits, Lao Tzu, quand vous lisez ces gens-là, ils sont, je dirais, obsédés par cette notion d'équilibre, qu'on appellerait plutôt pour eux une certaine d'équanimité. C'est-à-dire, ils sont toujours à la recherche du moindre déséquilibre possible, c'est-à-dire, je dirais, de la relaxation enfin, de cet état presque antérieur à la physiologie, si vous voulez, un état de bien-être, donc d'équilibre parfait.
Hippocrate disait « la santé, c'est l'harmonie
voilà. ».
Et ce terme a été repris par Claude Bernard. Venons-en, opérons un saut dans le temps, puisque nous passons d'Hippocrate à Claude Bernard à la fin du XIXe siècle. Claude Bernard ainsi que deux autres personnes font figure de trois maîtres que vous citez dans un article paru en mars 2007 chez Elsevier. Vous parlez de Claude Bernard, vous allez pouvoir nous en dire quelques mots rapidement. Également, vous parlez de Walter Bradford Cannon, vous en avez parlé rapidement il y a un instant, et puis de Hans Selye. Mais commençons par Claude Bernard.
Claude Bernard n'a pas travaillé dans le contexte qui nous retient aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler le stress. Mais Claude Bernard a peut-être bien vu, en fait, c'est le premier d'ailleurs, à concevoir que l'équilibre interne physiologique, des ensembles physiologiques du sujet, de l'organisme, était absolument nécessaire pour avoir une vie libre. Il voulait dire par là que si nous étions préoccupés moment par moment de notre rythme cardiaque, de notre pression artérielle, du tractus gastro-intestinal, si tout ça ne fonctionnait pas naturellement dans un état d'équilibre, les déséquilibres étant tout de suite manifestés par des troubles, n'est-ce pas ? Eh bien, nous ne pourrions pas faire tout ce que nous avons à faire dans notre environnement extérieur, dans notre vie, bâtir, je dirais, chercher notre nourriture, etc., etc. Donc, il fallait concevoir que l'organisme est construit pour se maintenir en équilibre lui-même. Et c'est pour ça, vous faites bien de relier Claude Bernard à Cannon, ils ne se sont jamais connus. Mais Cannon, qui est venu un peu plus tard, ils ne sont pas croisés du tout, mais enfin, ils étaient sur le plan intellectuel, dans un rapport maître à élève, n'est-ce pas ? L'un étant à Paris et l'autre étant à Harvard. Cannon a forgé un concept plus large, c'était celui d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre physiologique. Et c'était dans la même veine que la pensée de Claude Bernard. Mais lui est allé beaucoup plus loin au plan, je dirais, de l'organisation même du fonctionnement de chacun des systèmes physiologiques de l'organisme. Il admettait qu'il y avait quelque chose, enfin il a bien décrit les choses pour la connaissance de l'époque, que intérieurement, si je puis dire, chaque organe, chaque système physiologique était stimulé, recevait des informations, et quelque chose à l'intérieur même de ces organes, de ces systèmes, faisait que l'équilibre se rétablissait par la suite pour maintenir, je dirais encore, comme disait Claude Bernard, une certaine balance générale, un équilibre qui nous permettait de ne pas y penser, en fait, ça travaillait pour nous tout tranquillement, voilà. Donc, si vous voulez, là, quand Selye est arrivé en nous disant « quand un événement de vie arrive et qu'il est d'importance, il se passe des maladies, des troubles physiologiques, des troubles physiopathologiques extrêmement graves », parce que lui décrivait toute une triade de symptômes qui faisaient que son rat était presque mort, n'est-ce pas, parce que c'était terrible, eh bien, on arrivait dans un concept complètement différent. Les uns étaient sur la physiologie, sur l'équilibre, sur la balance, et l'autre est arrivé dans la pathologie. Donc, il faut bien voir la différence de, comment dirais-je, non seulement de conception, mais de monde dans lequel ces deux écoles fonctionnaient. Selye est arrivé en troisième position du point de vue biographique, d'accord. Mais Cannon et Selye se sont connus. Ils se sont connus, je dirais même, c'est une anecdote, ils se sont connus un quart d'heure, ou pas plus, c'est-à-dire que Selye a toujours voulu aller voir Cannon, le grand maître, là, à Harvard, et l'autre l'a reçu à peu près un quart d'heure en lui disant « je comprends rien à ce que vous racontez ». Bien sûr, ils étaient dans des mondes différents. Voilà.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien, Michel Lemoyle. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Pour un parfait vol au vent ou une délicate bouchée à la reine, prenez des crêtes de coq. Et faute d'en trouver, un certain Monsieur Lecoq, bienfaiteur de l'humanité, n'a pas hésité à en fabriquer. Un petit métier de bouche comme il en existait au XIXe siècle. L'histoire vous est contée par notre chroniqueur gastronomique Jean Vitaud. Un petit métier de bouche, fabricant de crêtes de coq, une émission à télécharger librement sur le site de Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Michel Lemoyle, avec qui nous parlons du stress. Nous nous sommes quittés avec Hans Selye, Michel Lemoyle, juste avant notre pause. Poursuivons sur les aspects de physiologie du stress. Quels étaient les aspects de physiologie du stress pour Claude Bernard et pour Hans Selye ?
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, disons plutôt de Cannon, qui est le grand physiologiste de l'époque, n'est-ce pas, qui était vraiment un homme considérable, et de Selye, donc deux contemporains. Il est intéressant de noter que l'un et l'autre avaient vu deux aspects physiologiques du stress différents et qui sont actuellement, au moment où je vous parle, tout à fait pertinents. Cannon avait travaillé sur beaucoup de choses, dont la mort subite. D'ailleurs, il s'était demandé pourquoi, dans certaines peuplades, un cri pouvait faire qu'un sujet qui le recevait tombait par terre, etc. Stress éminent, n'est-ce pas ? C'était vraiment une situation intéressante. Et il avait isolé un concept, oui, je pense que c'est un concept sur une base physiologique qui était celui qui nous amenait à constater que les animaux, ou que tout le monde, enfin, dans une situation de nature, avait soit à fuir quand les choses allaient mal, soit à faire face, c'est-à-dire combattre dans les mêmes situations, dans des situations, je dirais, adaptées, le sujet à choisissait selon les moyens, etc., qu'il avait à sa disposition.
Donc, en tout cas, agir.
Il a appelé ça le fight flight, c'est-à-dire se battre ou fuir. Et cette réponse, cette situation, cette réponse, oui, cette adaptation, par certaines mesures, hein, était sous-tendue par un système neuronal et endocrinien. C'est-à-dire qu'il était sous-tendu par le système sympathique, ce qu'on appelle les nervures de l'aide, le système nerveux périphérique, n'est-ce pas, et la médulo-surrénale, c'est-à-dire la glande qui libère, ça se dit dans la rue, l'adrénaline, n'est-ce pas. J'ai ma décharge d'adrénaline, je viens de brûler un feu rouge, et tout d'un coup, je sens une horripilation, rythme cardiaque, etc. Ben, vous venez d'avoir, dans l'instant, dans la milliseconde, si je puis dire, une décharge d'adrénaline. Et cette décharge d'adrénaline, c'est ce qui va vous permettre de réagir en fight avant de mourir et d'être attrapé, ou en flight, c'est-à-dire attaquer avant d'être soi-même attaqué. Donc, si vous voulez, c'est un système d'adaptation immédiate à tout événement de vie qui nécessite cette adaptation. Sellier, lui, travaillait dans une autre optique, travaillait dans les temps longs, parce qu'en fait, il martyrisait son animal, il lui cassait la patte et tout ce qu'on a, et puis il regardait par la suite, et vous voyez, fight, flight, c'est la seconde, sinon, encore une fois, vous êtes mort. Il travaillait dans le temps long et là, il avait découvert que c'était la corticosurrénale avec la sécrétion d'une hormone, chez l'animal on appelle la corticostérone, chez l'homme c'est la cortisone, qui était en jeu. Donc vous avez d'un côté, je dirais, un système immédiat et de l'autre côté, un système, je dirais, retardé, plus lent d'action, qui est la corticostérone ou la cortisone, donc la corticosurrénale. Alors ces deux systèmes sont deux aspects, le pile et le face, c'est deux aspects inséparables de la notion de stress. Réponse immédiate de l'organisme et réponse différée de l'organisme. Vous voyez ? Donc ces deux grands chercheurs nous ont fourni, je dirais, la base même de la physiologie, de la physiopathologie du stress qui, sur lesquels tout le monde travaille actuellement.
Là, on a bien compris l'aspect positif du stress, puisque l'animal va soit partir, soit combattre, mais en tout cas va provoquer une action.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Cannon est dans un cadre de physiologie, n'est-ce pas, d'adaptation physiologique, tandis que Sellier, lui, constatait les dégâts du stress. Donc, on a longtemps assimilé, et là on va arriver sur une histoire absolument incroyable, a longtemps assimilé donc la réponse du stress sous-tendue par la corticostérone, par la corticosurrénale, par la décharge corticosurrénalienne, à la pathologie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait un peu allier le concept de Sellier avec celui de physiopathologie et de pathologie. Et non pas d'adaptation, c'est plutôt une désadaptation.
Donc vous avez senti ma question venir sur de l'intérêt ou pas du stress.
Donc tout ça était très beau. Un excès de corticostérone crée des dégâts. Et il apparaît quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'histoire de la médecine, c'est que, et ça sur des hypothèses de travail qui n'étaient pas du tout, comme on l'a cru longtemps, immédiates. Non, ce sont des gens qui pensaient à cela depuis très longtemps. Mais en 1949, une des 10 grandes découvertes de la médecine de tous les temps a été faite par la découverte chez l'homme de la cortisone. La cortisone, ce fut le médicament miracle. Et qu'est-ce que faisait ça ? On donnait de la cortisone pour guérir. Donc, on donnait une sécrétion de la glande corticostérone, de la corticosurrénale, pour sauver les malades. Alors que Sellier nous disait que cet excès de corticostérone ou de cortisone créait la maladie. Donc les gens se sont trouvés devant ce dilemme. D'un côté, l'hormone guérit, de l'autre côté, elle rend malade. Et dans les âges, une découverte qui fut tellement extraordinaire, publication, je crois, c'est dans mars-avril 1949, et un an après, ils avaient le prix Nobel. Vous voyez, les découvreurs. Donc, c'était une chose, ça a été vraiment un bouleversement de la thérapeutique, si je puis dire, de près de 200 maladies ont été traitées par la cortisone. Donc, on s'est trouvé devant ce dilemme, et c'est une des raisons pour lesquels la recherche sur la glande corticosurrénale, sur la sécrétion et sur la cortisone a marqué le pas pendant à peu près 2 à 3 décennies. On a continué, c'est absolument clair, les gens ont continué à chercher, mais avec toujours cette contradiction qu'un excès pouvait aller loin et dépasser la physiologie et créer de la pathologie, alors que l'on donnait, du point de vue pharmacologique, parce qu'il fallait donner, voir les doses qu'on donnait chez certains malades, au contraire, les guérissait. On sait grosso modo pourquoi maintenant. Vous voyez que ce dilemme, cette contradiction, a un peu bloqué les recherches, je dirais jusqu'aux années 80, dans le domaine à quoi sert finalement la sécrétion cortico-surrénalienne. On ne savait pas exactement comment interpréter les contradictions qu'il y avait.
Alors je vous pose la question, Michel Lemoyle, le stress est-il utile et jusqu'à quel point ?
Alors, si on admet, si on prend une définition basale, à minima, à savoir que événement de vie, organisme, interprète, c'est ça l'important, l'événement de vie, l'événement qui survient dans l'environnement, interprète, donc on va dire, oh, finalement je vais m'en tirer, finalement j'ai qu'à tourner un bouton, il fait trop chaud, je vais fermer le radiateur, enfin oui, ça se passe comme ça, vous allez vous ajuster. Donc, vous allez avoir, je dirais, un message dans votre organisme comme quoi un événement de vie est arrivé. Ces messages sont traités par le système nerveux central. Et comme je viens de vous dire, d'une manière ou d'une autre, les glandes aussi sont sollicitées. Bien. Si cela se passe comme ça, je vais vous dire, le stress, c'est la vie. Le stress, c'est la vie. C'est ce que nous avons du matin au soir, tranquillement. La question, bien sûr, et nous l'avons déjà dit et on ne le répétera jamais assez, c'est est-ce que le stresseur, l'événement de vie, est supportable ? Pour le sujet, est-il ce sujet ajustable ? Peut-il y avoir les mécanismes qui vont permettre de s'ajuster ? Ou doit-il être subi sans possibilité d'échappement ? Et là commence alors ce que vous voyez dans la presse, etc., ou le concept qui court dans les rues, d'un stress nocif, qui va créer donc des perturbations. Alors, vous avez donc ces deux conceptions. D'un côté, je dirais pour un physiologiste, le stress c'est normal. Enfin, le stress, on appelle ça le stress, n'est-ce pas ? Les anciens appelaient ça différemment, peu importe. Ou alors, maintenant, on est dans un contexte où on dira, on est obligatoirement dans un contexte de nocivité de l'environnement, qui créera donc des perturbations. Voilà, vous voyez ces deux aspects. Il faut évidemment faire le choix et regarder de plus près comment ça se passe sur le plan des expériences, enfin, du plan de la médecine. Et maintenant, c'est ce qu'on fait.
Face à un stresseur répété qui pourrait peut-être provoquer un stress chronique, nous allons y venir dans quelques instants, sommes-nous tous égaux face à stresseur répété ?
Vous avez raison, absolument pas. Nous ne sommes pas égaux. Aller très loin dans les comparaisons. Dans les grands événements de vie qui peuvent bouleverser un organisme et un individu, que ce soit la guerre, que ce soit l'Holocauste, que ce soit tous ces événements qui ont été l'objet d'études biologiques, physiologiques, médicales, sur le long terme, sur les conséquences dans les décennies qui ont suivi, tout ce qui s'est passé, souvenez-vous, l'Oklahoma, enfin dans cette ville de l'Oklahoma, l'Oklahoma City, quand il y a eu un bon tiers du centre de la ville qui avait sauté, où il y avait eu, je crois que c'était des milliers de morts, enfin ça avait été quelque chose d'épouvantable. Dans tous ces événements de vie, n'est-ce pas, on étudie ce qui se passe dans les semaines, les mois, et on s'aperçoit qu'il y a des sujets qui, malgré tout, s'en sortent à peu près normalement. Qu'il y ait des traces, je pense que c'est certainement probable. Mais disons que la vie qu'ils continuent à mener ne les rend pas discernables des autres, des contemporains. Alors que d'autres ont un genou à terre et que d'autres même, je dirais, ont disparu. Là, actuellement, il y a des études qui paraissent sur ce qui se passe dans la guerre pour les Américains. C'est tout, ils étudient beaucoup ça, les Américains, parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance sur les études médicales, des grandes conséquences, des grands traumatismes. Là, actuellement, nous en sommes quand même au 6000e suicide de soldats revenus de la guerre Irak-Afghanistan. Ils ont fait plusieurs rotations, comme on dit, puis certains n'ont pas fait la énième rotation, sont restés sur place aux États-Unis, et on en est donc à 6000 suicides. Donc vous voyez, d'autres continuent. Donc il faut bien comprendre ça, d'autres continuent, ils se réinséreront dans la vie militaire ou civile sans apparemment dommage invalidant.
Oui. Est-ce qu'on l'explique ?
Il y a deux choses, plusieurs choses, mais deux choses essentielles de mon point de vue. D'abord, il y a la génétique. Alors ça, quand on dit la génétique, c'est souvent le grand mystère. Mais il est évident que génétiquement, nous sommes différents les uns des autres et nous sommes différents physiologiquement et dans nos réactivités physiologiques les uns des autres. Et surtout, nous sommes différents aussi génétiquement dans nos manières de voir le monde. Il y a des gens qui ont une façon d'analyser le monde, d'analyser l'environnement, d'analyser, de se auto-analyser ou pas. Enfin, nous sommes différents de tout point de vue. Et la deuxième chose, qui me paraît de plus en plus importante et qui est de plus en plus étudiée et qui est très riche de conséquences, c'est le fait que, de mon point de vue, dès le monde intra-utérin, les événements maternels, dans l'interaction, dans la dyade mère-enfant, puis après, lors des périodes périnatales, postnatale, et ceci jusqu'à une période, disons, chez l'homme de 3, 4, 5 ans, alors que les systèmes physiologiques sont encore souvent dans des équilibres qui ne sont pas ceux de l'adulte, donc vulnérables, les événements extérieurs de vie, ou qui sont pour l'enfant la diade, par exemple, la vie familiale et tout ce qu'on voudra, eh bien, impriment des traces lorsque ces événements de vie sont nocifs ou mal supportés pour l'enfant, ou considérés, alors là, objectivement comme un stress.
Une mère, par exemple, une future mère qui vit des événements stressants, va provoquer une certaine sensibilité, en tout cas une sensibilité accrue auprès de son futur enfant.
Ça, c'est très étudié, surtout que nous avons là des modèles faciles chez l'animal. Donc, on peut stresser des mères attendant leurs petits à différentes périodes et on regarde ce qui se passe. Et l'intérêt avec l'animal, surtout quand il s'agit d'un rongeur, on peut étudier ça tout au long d'une vie, puisque en 2 ans, l'affaire est pliée. C'est-à-dire, ça vit à peu près 2 ans, mettons 24, 27 mois. Un rat, eh bien, on va voir ce qui se passe dans la génération qui suit jusqu'à la mort. Et on s'aperçoit, ça a été étudié, il y a des milliers de publications là-dessus, qu'il y a des conséquences délétères extraordinaires. Alors vous voyez, l'individu se construit, il a sa génétique d'un côté, des événements de vie qui viennent, ça interagit, et ça fait un individu construit d'une certaine manière, qui peut être dans un état, je dirais, apparente ou pas, de vulnérabilité.
Restons dans le domaine de l'enfance. Vous avez travaillé sur le milieu social et sur l'impact du milieu social chez les enfants et du stress que cela peut provoquer. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Là, moi, je n'ai pas travaillé chez l'enfant vraiment, mais j'ai colligé, je m'intéresse beaucoup parce que je travaille avec des modèles animaux, mais j'ai beaucoup inventorié, étudié de très près les publications. Et il se trouve d'ailleurs qu'on commence à y voir clair depuis relativement peu de temps. On s'est aperçu que, je vais employer un terme que j'ai employé tout à l'heure, que le milieu social, pas simplement, encore une fois, le milieu familial, quel qu'il soit, je veux dire, un enfant peut être stressé dans un milieu bourgeois ou dans un milieu populaire. C'est un problème d'interaction entre l'enfant et son milieu direct, premier, qui est donc le milieu de la famille, de la parentèle. On s'aperçoit donc là qu'il y a des interactions très fortes dont je viens de parler. Mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était de savoir si le fait d'appartenir à une classe sociale ou à une autre, de vivre, se développer, naître dans un contexte socio-économique bas ou élevé, pouvait avoir des conséquences à long terme, définitives, je dirais, sur l'organisme. Et les travaux récents de ces 3, 4, 5 dernières années au plus haut niveau avec les meilleures équipes montrent qu'il y a des traces indélébiles. Et ces traces, voyez-vous, c'est intéressant parce qu'on revient à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on revient à l'hormone cortisone. En fait, on s'aperçoit que la sécrétion, enfin la sollicitation du système cortico-surrénalien par l'intermédiaire, encore une fois, du système nerveux, entraîne des sécrétions élevées comme on l'a vu, de cette hormone. On sait maintenant que cette hormone a des récepteurs dans le cerveau, mais des récepteurs dans toutes les cellules de l'organisme, mais traverse les méninges facilement, entre dans le cerveau où il y a des récepteurs. Et ces récepteurs sont plus ou moins transformés, mais progressivement transformés avec la répétition de ces sécrétions ou un maintien élevé de ces sécrétions. Et cela va même très loin, puisque non seulement les récepteurs sont peu à peu modifiés, deviennent hyposensibles, ceci dans toutes les cellules de l'organisme, mais le génome, c'est-à-dire l'ARN messager qui est à l'origine de la fabrication de ces récepteurs, est aussi transformé. Donc ça va extrêmement loin, ce qui fait qu'on a un phénotype moléculaire génétique qui est complètement transformé différemment selon le milieu socio-économique. Et ce qui explique, étant donné que c'est dans toutes les cellules de l'organisme, c'est la notion de lésion, c'est pas simplement ce que l'on voit, ça peut être aussi une lésion au niveau du génome. D'accord ? Ces modifications, donc ces traces, sont pas simplement dans le système nerveux, ce qui est déjà, hélas, beaucoup, mais par exemple dans les cellules immunitaires. Ce qui fait que l'on montre que la susceptibilité aux inflammations, aux bronchites, à l'asthme, etc., sont beaucoup plus importantes chez les petits-enfants nés dans des milieux socio-économiques bas que inversement, parce qu'ils ont leur système immunitaire déprimé, en raison de cette sécrétion élevée de cortisone. Maintenant, il y a de nombreuses études qui vont au cœur même d'une nouvelle médecine, en quelque sorte, puisque vous voyez que, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça, j'insiste beaucoup là-dessus, je crois qu'il ne faut plus séparer les sciences sociales, qui s'intéressent au monde social, qui vous le décrivent. Tout à l'heure, vous parliez de société difficile ou pas. Ça, les sociologues sont là pour nous le dire ou pas nous le dire, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'est leur métier. Il y a les sciences biologiques, je dirais, qui s'intéressent plus précisément à l'organisme, au système physiologique, aux cellules, au génome, vous voyez, mais qui regardent ce qui se passe. Et puis la médecine, qui est un petit peu entre tout cela, qui devrait être, je dirais, entre tout cela, qui devrait revenir en quelque sorte avec une culture qui s'approprierait à la fois la sociologie, enfin les données de la société, et les données de la biologie la plus pointue, la plus complexe et la plus, je dirais, élémentaire que, par exemple, la biologie moléculaire. Et vous constatez que si vous faites des travaux comme reliant un contexte social et un génome, le médecin, tout d'un coup, relie l'ensemble et crée une nouvelle médecine qui devrait être la vraie médecine, c'est-à-dire une médecine ouverte sur vous êtes qui, vous vivez dans quel milieu, vous venez de quel milieu, donc peut-être que je vais pouvoir expliquer, à travers des éléments de laboratoire, etc., que vos troubles que vous avez maintenant sont peut-être liés. Vous voyez, ça devient beaucoup plus large.
Travailler sur une nouvelle médecine qui prendrait en compte ces inégalités économiques et donc inégalités psychologiques.
Cette nouvelle médecine existe, en fait, dans les écrits et dans les travaux. Malheureusement, peut-être pas trop en France, mais dans le monde anglo-saxon, en Angleterre beaucoup, et aussi aux États-Unis, on passe son temps à essayer de relier un milieu social délétère et un nombre de plus en plus grand de pathologies qu'on appelle maintenant aux États-Unis les pathologies sociales. Le terme est absolument fabuleux quand vous réfléchissez. Pathologies sociales. C'est-à-dire des pathologies émanant dues à une certaine modalité de fonctionnement d'une société.
Michel Lemoyle, pour terminer cette émission, quelles sont les questions que tentent aujourd'hui de résoudre les scientifiques sur le stresseur, le stress ?
Eh bien, évidemment, il y aurait une envie, si vous voulez, qui serait de vouloir classer les stresseurs. Faire une hiérarchie des stresseurs, faire une classification des stresseurs.
Leur elle mettre... existe, cette classification.
Elle existe depuis toujours.
J'en ai eu sous les yeux.
La première, celle d'Holmes et Rae, était dans les années 60, 65, 66, 67. Il y a été vraiment une fureur aux États-Unis. Et vous constatiez d'ailleurs, entre parenthèses, que ce qui était important comme stresseur, c'était la mort de l'épouse, de l'époux, que le divorce venait dans les choses comme ça, mais que par exemple, si vous perdiez votre travail, c'était pas grand-chose. Si vous faisiez cette échelle maintenant, excusez-moi, je ne vais pas dire que le divorce était trois fois rien, mais disons que c'est une chose tellement commune et tellement banal que ça n'a pas créé des grandes maladies, n'est-ce pas ? Autrement, tout le monde serait malade. Mais si je veux dire, par contre, la perte du travail actuellement, ce serait autre chose. Donc, ce sont des échelles qui sont contingentes du milieu ou de l'époque dans laquelle vous vivez. Deuxièmement, comment dire qu'un stresseur, je répète encore, a un tel coefficient de malfaisance, si vous voulez, pour employer un terme, si vous ne connaissez pas la nature de l'organisme qui va le recevoir. D'où les différences interindividuelles. Donc, c'est toujours la même chose. Un stresseur, un agent, donc, un organisme dans un milieu social, dans des possibilités d'adaptation possibles ou pas.
Donc éviter de classer les stresseurs.
Je ne crois pas que ce soit très utile.
Merci Michel Lemoyle. Je rappelle pour nos invités que vous êtes neuropsychiatre, membre de l'Académie des sciences et premier psychiatre à avoir intégré cette académie, et que parmi tout ce que vous avez réalisé et exercé, vous avez créé et dirigé l'Institut fédératif de recherche de neurosciences cliniques et expérimentales, c'était de 1994 à 1998, que vous avez également créé l'Institut François Magendie de neurosciences, créé par l'INSERM, également professeur émérite à l'Université Victor Ségalène à Bordeaux 2, et aussi ancien directeur du laboratoire de psychopathologie expérimentale de l'École pratique des hautes études et membre émérite de l'Institut universitaire de France. Merci Michel Lemoyle et j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci infiniment.